d'un structuraliste qui a fait une étude magistrale des lois de la cache-route. J'ai son texte quelque part, ça voudrait appeler une fois qu'on vous fasse tirer que vous lisiez ça, comment un structuraliste non-juif a compris la cohérence, en tout cas, de la portée des lois de la cache-route. Et il explique par ce biais la grande différence avec le christianisme qui va, comment dire, rendre caduques toutes ces lois avec des formules comme « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche mais qui sort de la bouche qui rend impur » ou bien « tout vous est permis » et il montre bien qu'on veut abattre les barrières de différenciation. C'est dans le même contexte que ni homme, ni femme, ni juif, ni grec et ni cachère et tarouf. Vous voyez à peu près le problème. Bon, je referme la parole. Alors, dans tous les cas, j'ai deux choses à rappeler. Le sens du verbe vaïri, et il arrive à que, et le sens du mot huitième, yom hashmini, le huitième jour. Je veux dire d'abord de façon formelle l'essentiel de cette étude, qui nous permet d'aller plus vite par la suite. C'est qu'au fond, là se rassemble toute une série de sources qui indiquent que la sortie d'Égypte était la fin de l'histoire de ce monde-ci et qu'on devait entrer dans le monde à venir. En tout cas, entrer dans le temps de transition entre ce monde-ci et le monde à venir, c'est-à-dire le Yamat HaMashiach. Vous avez des textes qui ne vous sont peut-être pas très familiers, dans le Midrash, vous les retrouverez, qui indiquent qu'à la sortie d'Égypte, le monde se transfigurait. Les malades guérissaient, tous les défauts disparaissaient, les morts étaient en train de ressusciter, et puis voilà, la faute a empêché et le monde a continué l'histoire de ce monde-ci. Mais que c'était un temps, ces 40 ans de la génération de la sortie d'Égypte, c'était un temps exceptionnel, privilégié. Ça a échoué, mais ça aurait pu réussir. Retenez l'idée en tout cas. Et je vous donnerai une indication qui me semble très souvent négligée. C'est que toute la Torah ne concerne, en tout cas la Torah Shebirtav, ne concerne que la génération de la sortie d'Égypte. Elle ne s'est révélée qu'à cette génération-là. Avant, après, c'est Torah Shebalpé. Et la Torah Shebirtav, Torah Moshe, concerne la génération de la sortie d'Égypte. Et c'est cette génération de la sortie d'Égypte qui a eu le privilège d'avoir expérience des événements de révélation. Pas seulement la révélation de la parole de la Torah, mais la révélation de Dieu à travers les événements, et de la sortie d'Égypte, et du Sinaï, tout ce qui s'est passé pendant ces 40 ans. C'est une génération de géants, exceptionnelle, que la Torah appelle Dordéa, la génération de la connaissance. Mais ce n'est qu'au bout de 40 ans qu'il se dévoile qu'il y a eu incapacité de fonder vraiment cette connaissance à l'expérience de laquelle on avait été appelé dans cette génération. En particulier, Judas Lévi, lorsqu'il parle de la faute du Hodor, donne le principe suivant. Il ne faut juger cette génération qu'à la hauteur où il se trouvait. Et on fait semblant, nous les modernes, d'avoir un jugement méprisant sur ce qu'on appelle la génération du désert. En français, ça a pris un terme extrêmement négatif. Mais la génération du désert en hébreu, c'est Dordéa. C'est cette génération qui a été appelée à la connaissance et qui a trébuché sur la connaissance. Mais c'est sur la connaissance qu'elle a trébuché, pas sur l'ignorance. Je ne sais pas si c'est clair ce sujet. Elle a été appelée à la révélation, et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu difficulté. Et au fond, il y a une discussion dans le Talmud, dans le Masechet Sanhedrin. Est-ce que la génération du désert aura droit au monde à venir ou pas? Il y a deux opinions. Une qui dit elle n'aura pas droit. Et une qui dit elle aura droit. Alors comme on explique la première, elle n'aura pas droit. C'est pas qu'elle n'aura pas droit, elle a déjà eu. Est-ce que c'est clair? Yeshlaem ou Enlaem, Khelek l'Alamaba. Alors c'est dit que Enlaem, Enatid liyot lahem. Ils ont déjà eu la Khelek l'Alamaba. Et ceux qui disent elle a droit, c'est-à-dire parce qu'ils méritent de l'avoir mieux. Mais c'est une génération exceptionnelle. Vous savez, quand on se met, je veux dire à quoi ça ressemble. J'entends souvent des historiens religieux, entre guillemets, dire que la grandeur du judaïsme, c'est que les fondateurs étaient des hommes comme nous. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, étaient des gens comme nous. Je suppose que vous avez entendu ces choses-là. Mais c'est tout le contraire. Ça n'a rien à voir avec nous. C'était des fondateurs et d'une identité qui a traversé l'histoire humaine en cataclysme, Israël. Lorsqu'on fera le bilan de la relation de cette manière d'être homme, Israël, et l'humanité tout entière sur 4000 ans, on s'apercevra que ceux qui ont instauré cette identité, ce n'est pas des gens comme nous. Nous sommes des microbes par rapport à eux. Nous sommes des individus d'un ensemble qui s'appelle Israël. Eux étaient tout seuls l'ensemble. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Je parle d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, les grands, David, Salomon, fils. Et bien c'est la même chose. Cette génération est une génération de géants. C'est une génération fondatrice. Toute la Torah ne concerne que. Et dans les mitzvot et dans les événements. Nous parlons par oui dire de ce qui pour eux était connaissance. Ata hareta ladat. Je ne sais pas si c'est clair la portée de cela. Alors on oublie. Vous savez à quoi ça ressemble? On oublie que la révélation a eu lieu parce qu'on a oublié qu'elle a cessé. On a oublié qu'il y a eu un temps de l'histoire où la révélation a cessé. Alors ça nous fait oublier qu'elle avait lieu avant. Vous avez compris? Et alors on parle de notre temps comme si c'était le même que le temps de la Bible. Et après on se collecte à des incompréhensions. Et pourtant ça ne ressemble pas tellement à notre monde parce que le postulat était faux. Qui a dit que ça ressemble à notre monde? C'est un autre monde. C'est le monde de la révélation. Vous avez compris? Bizirampin, comme on dit en français, en taille réduite, en miniature, tous ces grands personnages sont dans l'identité Israël de chaque contemporanéité. Dans chaque génération, ils sont tous là, mais dans l'envergure de la génération. Et comme c'est une petite envergure, on ne se rend pas compte de quoi on parle, quand on parle des modèles, enfin des fondateurs. C'est bien clair, je suppose. Alors, en tout cas, c'est sur Hayom HaShemini. Je vous donne le plan. Ceux qui sont déjà familiers à cette étude vont comprendre plus facilement. Les autres, si ce n'est pas clair, interrogez-moi. Voilà, le récit de l'histoire, le rythme, la structure du récit de l'histoire d'après la Torah, c'est les 6 jours du commencement, le 7e, qui est l'histoire de l'humanité, et le 8e, lorsque l'histoire de l'humanité aura réussi, dans lequel, le jour dans lequel on passera. Donner un exemple de compréhension directe après les textes. Dans le récit des 6 jours du commencement, il y a à la fin de chacun des 6 jours un verset refrain. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1, jour 2e, jour 3e, jusqu'au 6e. Il n'y a pas écrit, et ce fut soir, ce fut matin, jour 7e. Ça veut dire que depuis Adam Harishon, on est encore dans ce 7e jour du commencement. Et on espère qu'il va s'achever quand Élie Aronavi, qui vient le samedi soir, comme vous le savez, nous dira, eh bien, c'est le temps de passer au 8e. Et le 8e jour, je vous l'appelle par approximation le jour messianique, si vous voulez. Et je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus, mais dites-moi si ça s'éclaire d'abord. Je vous donne une référence. C'est dans Pirkei des Rabbi Eliezer, où ce que je viens de vous dire se trouve, avec le complément suivant, le 7e jour n'est pas clos, et sa clôture ne sera, et son inauguration, Chinucha, ne sera indiquée que les Hatilavo. Les 6 premiers jours sont révolus, le 7e est en cours d'histoire, jusqu'à sa réussite, et lorsqu'il aura réussi, il sera écrit, et ce fut soir, ce fut matin, jour 7e, dans la Bible des temps messianiques. Et je veux dire de quoi il s'agit. Pour chacun des jours, il y a un projet. Par exemple, le premier jour, que la lumière soit. Qu'il y ait lumière, pas la lumière. Qu'il y ait de la lumière. Or, il n'y a pas l'article. Que lumière soit. Et ça s'est réalisé. Or, il y a eu lumière. Alors on peut dire, le verset, je vous mets la référence, qui résume le projet pour le 7e jour, se trouve au début de la paracha de Kedoshim. Je vous donne la référence, c'est le chapitre 19 de Vaïkra. Verset 2. D'après le jour à l'âme d'Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, va martaler, mais tu leur diras, Kedoshim Tiyu, ki Kadoshani, Hashem Elokechem. Vous serez Kedoshim, car je suis Kadosh, moi Hashem, votre Dieu. C'est le verset qui récapitule le projet pour le 7e jour. Et lorsque ça sera réalisé que lettre de sainteté existera. Alors il aura écrit, et ils furent Kedoshim, et ce fut soir, ce fut matin, jour septième, et on aura passé au huitième. C'est clair jusque-là? Bon, je ne vais pas trop approfondir cela, retenez-moi au moins formellement. Et ce qu'il y a, c'est que, comme par hasard, le mot de Shmini a toute une série d'assonances avec le jour messianique. D'abord, Shmini, ça veut dire huitième, mais la racine, c'est la même que Shemen, l'huile. Vous y êtes l'onction qui fait que on oint le Mashiach. C'est le jour huitième, c'est le jour du Mashiach. C'est la en français, pour dire que quelqu'un est important, on dit une huile, ou une grosse huile. Ça vient du temps de l'onction. Vous savez pas ça? Si, si, c'est pas chaud. Tu sais. Et alors, le Yom HaShmini. Et Shmini, c'est huit. Et comme vous savez, toutes les fêtes qui ont 8 jours sont des fêtes messianiques. Le 8e jour dans les fêtes bibliques ont toutes 7 jours. Certaines ont 8. Par exemple, Shmini Chag HaTzeret. Shavuot par rapport à Pessah. C'est une indication de la fin des temps. Hanouka, c'est évident. Hein. Et vous voyez, et Hanouka, c'est l'huile. Hashmonaïm. Prenez Hashmonaïm, vous avez Het, 8, et Shemen, l'huile. Mais tout ça, c'est des coïncidences, bien sûr. Évidemment. alors, vous voyez ce qu'on entend. Veillez, et il arriva le huitième jour. Voilà, c'était le jour où on passait du temps ancien, du monde d'avant, qui va s'annuler, la civilisation de l'Égypte, Olamazé, et puis pour rentrer dans le Olamaba, catastrophe, on s'en est pas sorti. Alors on reste dans le septième jour. C'est clair? Et c'est indiqué par le verbe de Vaïhi. Alors là, je vous cite la règle du Talmud. Chaque fois qu'un récit commence par Vaïhi, et je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, ça annonce une catastrophe. En fait, la règle du Talmud, c'est chaque fois qu'un récit commence par Vaïhi, bimé, et il arriva au temps de, il faut s'attendre à ce qu'on nous raconte une catastrophe. Et ici, nous avons la formule analogue, Vaïhi, Bayom, Hashmini. Alors, je vais mettre ça au tableau. Pour ceux qui n'ont pas étudié ça en détail, en résumant un peu l'explication que nous en a donné le rapport. Il y a une règle dans la grammaire hébraïque, c'est la conversion du passé en futur et du futur en passé. Alors regardez bien ce qui se passe dans Vaïhi. C'est Yéhi, c'est un futur, et Vaïhi, c'est un passé. J'ajoute le Vav, le futur est transformé en passé. Et il arriva que Yéhi, il arrivera. Sera. Vaïhi, il est arrivé. L'inverse est Vehaya. Haya, c'est le passé. Vehaya, c'est le futur. Alors la règle complète, c'est un récit qui commence par Vaïhi, c'est une catastrophe. Un récit qui commence par Vehaya, c'est une joie. Ça veut dire ça annonce un bonheur. Vehaya. Et il arrivera que. Alors là, comme le Rav Kook nous l'a appris. Et avant ça, je vais vous citer qu'il y a une question dans le Talmud, on cite plusieurs exemples, Vaïhi bimé, il arriva au temps d'eux, que c'est des catastrophes. Objection, le début de la Megillat Esther. Vaïhi bimé Ahashverosh. Alors ça a été un salut. Alors il y a deux réponses. La réponse de la Gemara, c'est, il y a une réponse dans la vie de notre temps. La réponse de la Gemara, c'est, on a perdu Esther. Le prix à payer pour le salut d'Israël, c'est que Esther est devenue la femme d'Assuérus. Et que les engendrements de la royauté d'Israël sont passés chez les Goïms. Esther, c'est la fin d'une histoire qui commence à Sarah. Vous vous rappelez ce Midrash qui dit Sarah qui a vécu 127 ans, Esther a gouverné sur 127 provinces. Vous vous rappelez de ça? Alors l'histoire des engendrements messianiques d'Israël commence à Sarah, s'arrête à Esther. Et avec Esther, ça rentre chez les Goïms. C'est une des raisons pour lesquelles, d'après le Shulchan Aruch, quand on rencontre un roi des Goïms, il faut dire une bracha. Parce que lui, il ne sait pas, mais nous savons. C'est par délégation de la royauté d'Israël qu'il est roi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et vous remarquez que, entre-temps, toutes les royautés s'éteignent, une après l'autre. Ça a commencé par les rois d'Italie à la guerre de 14, et puis après la guerre de 45, presque tous. Les derniers qu'on attend, c'est l'Angleterre, mais... C'est imminent d'après les journaux. Et puis là où c'était spectaculaire, c'était la fin de la dynastie du Shah. Et puis de celle de l'Éthiopie, j'ai oublié. Le roi des rois des rois. Il se prétendait roi des rois de la royauté d'Israël en plus. Bon, essayez de relire cette histoire d'après ce principe. Vous voyez, nous sommes dans un temps où la royauté s'éteint chez les Goïms et que elle se prépare en Israël. J'ai rien dit de plus, hein. En tout cas. La figure de la reine Esther est très étudiée dans la Gemara à ce sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Les Toladot sont passés chez les Goïm, et c'est pourquoi le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah d'Esther. C'est un enseignement du Sefer HaHasidim, des Hasidim allemands, du Rokhea, qui est que le mot de Hachem apparaît que sur les engendrements de l'homme. La première fois que le mot de Hachem apparaît dans le texte de la Torah, c'est Beyom Asod Hachem Elokim Eretz Veshamayim. Parce que c'est Toledot Adam qui commence. Et lorsque les Toledot sont en court-circuit, je veux dire, en la clandestinité, le nom de Hachem disparaît du livre d'Esther. Je reviens à un autre sujet. C'est que, et c'est là que je vous cite l'enseignement du Rav Kook, qui nous a donné à deux niveaux. Premièrement, le passé comme tel, c'est un malheur. C'est déjà arrivé. Vous allez voir que là, il y a une sensibilité différente de la culture contemporaine. La culture contemporaine met l'âge d'or au passé. Alors nous le mettons dans l'avenir. Si vous voulez, la question des goyim, c'est qu'est-ce qui a dû se passer pour qu'on en soit là? C'est clair? Alors que la question d'Israël, c'est qu'est-ce qui nous attend pour qu'il faille passer par là? Et c'est deux sensibilités radicalement différentes. Vous avez compris? Dans le temps d'Israël, la nuit est d'abord et le jour vient après. Chez les Goïms, c'est l'inverse. Il y avait le jour d'abord, l'âge d'or, et on est dans la nuit. Là, il y a un pessimisme, là, il y a un optimisme. Vous voyez la différence? Mais si vous étudiez la littérature des Goïms, vous verrez qu'ils sont omnibulés par c'est arrivé. Si vous comprenez l'arabe, je vous dirai en arabe. Défaite, maître. Ce qui s'est passé est mort. En tout cas, pour revenir au sujet, le passé comme tel est un indice vaille de malheur. Alors que l'avenir, parce que c'est encore en espérance, est gros de tous les bonheurs possibles, éventuels. Mais c'est une sensibilité extrêmement différente. Alors si on a bien compris cette règle, on arrive là. Alors si en plus, c'est un avenir qui s'est transformé en passé, alors en plus que c'est vaille. Vous avez compris? Et si c'est un passé qui va se transformer en avenir, en plus que c'est vraiment un bonheur. Voilà donc quelle est la règle. Et c'est ce que nous avons ici. Vaillé, il faut s'attendre à une catastrophe. La catastrophe qui s'est produite au huitième jour qui était possible à la sortie d'Égypte. Vous voyez, le huitième jour, c'était, on a fini la préparation des sept jours, et on rentre dans le huitième jour. Mais ça, c'était la préparation des sept jours, les sept jours de Milouim, c'est clair. Et puis, à un deuxième niveau, c'est l'histoire du monde. Les sept jours du monde sont achevés parce qu'en fin de compte, la sainteté réussit en Israël et on passe au huitième jour. Et au moment de passer au huitième jour, catastrophe. On ne sait plus faire le sacrifice. Il y a une discussion de Talmidei Chachamim, Machloket. Vous y êtes? Alors, comment est venue cette discussion de Talmidei Chachamim? Pendant la Béabiou, ils ont apporté un Esh Zara, catastrophe, et puis alors on ne savait plus comment était la Halakha. Nous allons voir ça maintenant. La différence de Halakha, du sacrifice d'initiation entre Moïse et Aaron. Alors vous allez prendre le texte. Vous allez le prendre à la suite de ce qu'on a eu tout à l'heure. Et au chapitre 10, à partir du verset 3. Alors, au verset 2, un feu est sorti et a brûlé Nadab et Abihu. Alors, je vous traduis. Non, on va prendre plus loin parce qu'on n'a plus le temps. Une minute. Premier. Verset 12. Alors, prenez verset 12. « Vaïdaber Moshe et Aaron et Elazar, et Moïse parla à Aaron, à Elazar et à Itamar après la mort de Nadab et Abihu. Bana Banotarim, les fils restants à Aaron, et il dit, verset 12 du chapitre 10, Zed, Yom Kippur, Kechou et Amincha, Anoteret, Meishé Hashem, prenez l'offrande qui reste du sacrifice de Hashem, Veichloua, et mangez-la. Il fallait consommer le sacrifice pour assurer l'expiation des fautes qui empêchaient que le culte puisse commencer. Voilà comment était la halakha que Moïse transmet. Ce qui reste de l'offrande, mangez-la. Or, on verra que Aaron ne l'a pas mangé parce qu'il était en deuil. Vous voyez comment la catastrophe est arrivée. Un grain de sable qui a arrêté l'histoire du monde. Continue. Et mangez-la, matzot, accompagné de matzot, et c'est la misver, près de l'autel, qui kodesh kadashimi, car c'est une offrande du plus haut niveau de sainteté. Va achaltemota bemakum kadosh, vous la mangerez, vous la consommerez dans un endroit saint, qui chokra vechok banechai, car c'est ta part et la part de tes enfants que te donne la loi. Ça veut dire, le rôle du prêtre, c'était de pouvoir manger de la nourriture pour laquelle aucune faute a été faite, qu'offre le peuple. Toute nourriture pour le peuple étant, comment dire en français, handicapée par la faute du problème économique. Si c'est pas clair, j'ajoute une explication. Les offrandes qui étaient apportées au temple étaient des offrandes qui étaient prises avant la commercialisation des récoltes. C'était une nourriture kadosh. Et c'est une nourriture qui est appelée consacrée, et elle ne peut l'être que si elle est prélevée avant le circuit économique de la récolte. C'est clair ? Donc, c'est une nourriture pour laquelle aucune faute n'a été faite. Est-ce que c'est clair ? Et donc, un tel repas peut expier les fautes que le problème économique entraîne. Toute faute est entraînée par la petite jouissance qui fait que si on ne mange pas, on ne vit pas, mais c'est parce qu'on est obligé de manger qu'on fait des fautes. Ça s'appelle problème économique. Ici, il faudrait une analyse de vocabulaire marxiste pour que ça soit bien clair. La plus-value du pain que vous achetez, c'était la faute d'exploitation d'un ouvrier. Et alors ce pain-là, il n'est pas sacré. Il est massacré. Bon, vous avez compris l'idée. Et alors, vous devez vous nourrir de cela. C'est cela qui déculpabilise les fautes qu'on est obligé de faire parce qu'il faut manger pour vivre. Et la kavana du peuple était, si on pouvait être comme le Cohen, qui n'a pas à faire des fautes pour manger, et nous n'aurions pas de fautes. Et c'est ça qui déculpabilise la faute involontaire, c'est-à-dire la faute entraînée par le jeu de la vie. C'est tout simplement, parce que, tout simplement, enlever tout simplement, c'est pas si simple. C'est parce que il faut manger pour vivre qu'il y a des fautes. Et alors, le Cohen a une vie consacrée où il peut manger. Non, laissez-moi vous animer, me faire penser à autre chose. Vous savez déjà, je vous répète ce point. Pendant que je suis en train de parler, moi ou quelqu'un d'autre, ne levez jamais la main. Vous faites penser à autre chose. Attendez que ce soit fini, vous posez votre question. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui. Le Cohen peut manger et vivre sans que sa nourriture n'ait été grévée d'une faute économique. Bon, c'est pas difficile à comprendre. Alors, quel était le culte du sacrifice ? C'était un repas parfait, mangé par l'homme parfait, habillé des vêtements parfaits dans la maison parfaite. C'est le geste de vie parfait qui était le comportement de sainteté. C'est clair. Et alors, il fallait donc manger le sacrifice. Mais un empêchement, je suis en deuil. Comment je peux manger le sacrifice ? On continue. Et voilà ce que Dieu dit à Moïse, que Moïse dit à Aaron, mangez-le, qui chène sous vêti, parce que c'est comme ça que j'ai reçu l'ordre. Veit, Hazat et Loufa, passez le verset 14, suivez. Prenez verset 16, Tetzaïm. Et lorsque Moïse vient voir comment ça s'est passé, Veitzeir Achatat, Darash, Darosh Darash, et voilà que le bouc du sacrifice, Moïse l'a recherché, on vous signale que le mot de Darosh, c'est le mot qui est à la fin de la moitié de la Torah, et que le mot de Darash est le mot qui est au début de l'autre moitié de la Torah. Ça se passe au milieu, Darosh Darash. Et Moïse l'a cherché, et voici qu'il a été brûlé, pas mangé. Vaiktsor Eleazar vers Itamar, Moïse se mit en colère contre Eleazar et Itamar, Ben Aaron, le fils d'Aaron, Anotarim les mots, qui était resté en disant, voilà le texte de sa colère, verset 17, « Madoua wa khatem et khata, pourquoi vous n'avez pas mangé le sacrifice d'expiation ?» Je crois avoir donné suffisamment d'indications pour montrer que c'était important. Ça veut dire, le principe sur lequel tous les cultes reposent, vous l'avez annulé. On ne peut pas commencer. Parce que c'est ça, le culte de la Torah. C'est le fait que le Kohen mange le sacrifice d'expiation. En tout cas, une partie était brûlée, une partie qui lui revient, parce que c'est le fait du Kohen. Ça s'appelle la manducation en théologie. Le Kohen mange ce sacrifice qui déculpabilise les fautes du peuple. Or, on est dans une impasse, impossibilité. Il ne peut pas manger de la viande. Et le jour même, il était en deuil. Et pourquoi il était en deuil? Parce que ses fils étaient trop pieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame. Okay. Alors, je continue. Pourquoi il n'a pas mangé le sacrifice à l'endroit sacré? Qui connaît la chimie, puisque c'est le sacrifice de sainteté, et que Dieu vous l'a donné pour expier la faute de l'assemblée, les chaper à l'aile, pour faire expiation pour eux, et finir Hachem devant Dieu. Et c'est clair le texte. Hen, l'ohu bait dama, voici qu'on n'a pas approché le sang, et la Kodesh, Penima, vers la sainteté intérieure, je ne vous explique pas, mais devinez. Il fallait le manger comme je vous l'ai ordonné, comme j'ai été ordonné. Vaïdaber Aaron, lisez la suite, verset 19. Et Aaron parla à Moïse, c'est vraiment dramatique ce qu'on va lire. Hen, Hayom, Ikribu, Etratatam, Vetrolatam, Yunachem. C'est vrai, Hen, ainsi, est vraiment, comment on dit en français, Hen, certes, non, c'est faible. C'est l'affirmation. Oui, je confirme, c'est vrai. Aujourd'hui a été approché devant Dieu les sacrifices d'expiation et les holocaustes. Vatikrena otikaele, mais voilà que aujourd'hui, c'est moi quelque chose d'aujourd'hui, il m'arrive ce qui m'est arrivé. Veachalti hatatayom, et aurais-je mangé l'expiation du jour? Haïta ben Hashem, est-ce que ça aurait plu à Dieu? Le texte ne dit pas que Moïse ce qu'il a répondu, mais je vais vous dire, il dit, mais est-ce que ça te regarde? Fais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu discutes? Qu'est-ce que tu raisonnes? Vous avez compris le problème. Vaishma Moshe Vaita Bena. Ça, c'est la grandeur de Moïse. Et Moïse entendit, et la chose lui a plu. Il s'est dit, bon, il a appris la leçon antérieure. Il a bien compris la halakha, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Vous y êtes? Alors, voilà le drame en question de Vaihi Bayom Hashmi. Très rapidement, parce que j'ai plus le temps même de vous donner les références, si vous voulez, je vais vous dire de quoi il s'agit. Je vous prends le modèle de ce lien entre une catastrophe et le rappel et l'indication des lois de la cacheroute. Parce que maintenant on arrive, mais il me reste peu de temps, au fond du problème. Alors j'en dirai l'essentiel. Vous rappelez que la Torah nous raconte dans le livre de Bereshit une histoire que personne ne comprend. Que Jacob a rencontré un ange, qu'il a lutté avec lui toute la nuit, et que Jacob a été plus fort que l'ange, mais cet ange, de manière traître, étant vaincu quand même, a réussi à blesser Jacob à la pomme de l'ange, Kav Yerecho. C'est la pomme de l'ange qu'on dit en français? Enfin, la jointure de l'ange, Kav Yerecho. Tout de suite après, la Torah ajoute, Alken, lo yochlu bene Israël et Kidanaché. Et c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas ce qu'on appelle à tort le nerf sciatique. C'est pas le nerf sciatique dans la nomenclature physiologique, c'est le nerf qui innerve les parties sexuelles de la bête. Donc. Et alors, tout le monde se demande quel rapport. Parce que un ange a déboîté l'ange de Jacob, on ne mange pas le nerf en question, qui s'appelle le vidanaché. Quel rapport? Et le Talmud s'empare du verset en disant « Alken lo yochlu bnei Israël ». Ça veut dire que cette interdiction de manger du vidanaché, vous savez à quel point c'est important dans la cacheroute, c'est pourquoi dans les pays où on ne sait pas dénerver cette partie de la bête, on ne mange pas la partie inférieure de la bête, et donc les juifs pieux en France ne mangent pas de gigot, parce que le rabbin a décidé qu'il ne sait pas dénerver les gigots. Comme si pendant 2000 ans on ne savait pas. Non, vas-y, vous voyez la chumra, ok? Et alors, Par exemple, si vous allez demander une partie inférieure de la bête dans une boucherie cachère en France, on va vous regarder avec des yeux perçants. Le roumélisme. En tout cas, pour venir au sujet. Quel rapport entre un ange qui a... Bon, voilà ce que la Gemara va nous dire. Cette loi n'a été usitée qu'après le Sinaï, où les enfants d'Israël s'appellent les enfants d'Israël, pas aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, tant que la Torah n'est pas promulguée au Sinaï, tous les commandements qui sont donnés avant n'ont pas force de loi d'obligation. Ce n'est que lorsque Israël devient la collectivité d'Israël qui est soumise à la Torah que ça prend force de loi. Et voilà ce que le Talmud nous dit là-dessus. Comme si ça ne le frappe pas que ce lien entre un ange qui a heurté Jacob, on ne comprend pas ce lien avec le fait qu'il va falloir manger cachère. Voilà le principe, on nous dit, de la cacheroute. Ça commence là. Est-ce que j'ai réussi à vous faire poser le problème, en tout cas, okay? Vous voyez que c'est quelque chose d'analogue. Il y a une catastrophe qui s'est produite. Jacob a été heurté au café Réchaud. Et alors, on va manger cachère. De la même manière ici. Une catastrophe s'est produite et la Torah va devenir prolixe sur les lois de la cacheroute. Il ne faut pas oublier qu'il faudra manger cachère, bien qu'on aurait pu rentrer dans le huitième jour, mais on n'est pas rentré dans une catastrophe. Vous voyez le lien formel en tout cas. Je reviens à l'histoire de Jacob en vous citant comment le Shla a expliqué une source dans le Zohar à ce sujet. D'ailleurs, dans la Gemara, mais dans le Zohar, on nous donne la raison pour laquelle le bleu est la couleur de Jacob. Techelet, le bleu, vous savez que finalement, le drapeau d'Israël, ça se rattache à ça, bleu et blanc. Okay? C'est très laid, Vélaban. C'est pas Kahol Vélaban, c'est très laid. C'est pas le même bleu. Et nous allons voir d'ailleurs d'où vient le mot très laid en hébreu. Alors la Gemara dit, qui très laid, domé la yam, yam, domé la rakia, verakia, domé le kissa kabou. Ça veut dire, c'est le bleu de l'épaisseur de la profondeur de la mer, c'est ce bleu-là, hein, qui ressemble au bleu de l'épaisseur de la profondeur du ciel, qui ressemble au trône de la gloire. Or, si on prend les initiales de Yam, Rakia, Kisei Akavod, Kaf, c'est Yud Resh Kaf, c'est Yerech, l'ange. Et le Kaf de Yerech, c'est le Kisei Akavod, ça y est. Donc Jacob a été atteint au Kaf du Yerech, c'est-à-dire le Kisei Akavod, qui correspond dans les jours de l'année à Tisha B'Av. Puis c'est à Tisha B'Av que le Kisei Akavod a été atteint. Je vous résume beaucoup, c'est beaucoup plus profond, mais il y a trop de données qu'il faudrait que j'explique, alors je vous schématise. Ça veut dire que, et voilà comment les rabbins ont expliqué cette catastrophe, Jacob a été atteint dans sa descendance par le génie d'Ésaü qui va ravir à Jacob des descendants qu'il va convertir au christianisme. J'ai schématisé, mais c'est clair, hein? C'est vrai qu'entre-temps, Ésaü, on les a eus, mais entre-temps, on a perdu énormément de monde chez eux. Je me rappelle même de mon dernier voyage au Portugal, je vous en ai parlé. Les marins du Portugal qui se retrouvent juifs, on n'a aucune idée, le Portugal entier est juif. L'Espagne à 90%, mais le Portugal, c'est effarant à quel point. Alors quand on a fait cette cérémonie pour les marins de Belmonte, c'est sorti de partout. Des ecclésiastiques, des préfets, des sous-préfets, j'en suis, mais ça sort comme ça. En tout cas, pour revenir, tout ça, c'est ce que la descendance du guide Anaché de Jacob a été ravie par le génie des Aïus. Et alors, le Shla explique que, effectivement, c'est ce qui est commémoré à Tisha B'Av, où nous avons perdu le Christ à Kavod, le temple a été détruit. Le correspondant du Kisei Akavod sur Terre, le temple a été détruit. Il y avait d'ailleurs une prophétie dans le Midrash, et ça s'est réalisé que le prince de Rome sera enterré à Tisha B'Av. Alors un des derniers papes à être mort de notre temps, c'est je crois Jean-Paul Ier, a été enterré à Tisha B'Av. Et il s'appelle dans le Midrash le prince de Rome.
Et c'était Shabbat.
On n'a pas jeûné. Non, c'est exact. C'était très frappant. Une coïncidence monumentale. C'est une coïncidence, bien sûr, mais... Et alors, en tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez ce qui se passe. Les engendrements ne sont pas achevés alors il faut manger cachère. Parce que les engendrements dépendent de la manière dont on mange. L'homme devient ce qu'il mange. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les engendrements sont en question, il faut rappeler les lois de la cache-route. Voilà quel est le lien qui nous est donné par cette ligne. Est-ce que c'est fait ? Voilà, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, j'essaierai d'avoir des réponses.
Est-ce que le critère, à partir de la distinction entre la sanction d'une faute qui est appliquée immédiatement, ou lorsqu'elle est renvoyée à plus tard, à futur matin, ou elle peut être faite par la déchouvage, est-ce que c'est parce qu'elle a été rendue, elle a été faite publiquement à la
faute ? C'est un des éléments. Mais ce n'est qu'un élément. Vous avez compris la question ? Il y a des fautes dont la sanction est immédiate et des fautes dont la sanction est retardée et pourrait être aménagée par le repentir. Alors la question c'est, est-ce que les fautes dont la sanction est immédiate, c'est quand ça s'est fait de pharasia, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire en public. C'est un des éléments. Bien. Par exemple, je relierai à cette question un enseignement important qu'il y a trois fautes graves que Yahare va y avoir. On doit se laisser tuer et pas les transgresser. Pourquoi ? La halakha précise, quand c'est en public. Quand c'est en privé, on peut tricher. Mais, on a parlé des marabouts, hein, énormément de juifs se sont laissés brûler et ne pas apostasier en public. En privé, c'est moins grave. Entre l'inquisiteur et le juif. Mais si c'est en public, il valait mieux se laisser brûler. Ça va un peu dans le sens, mais ce n'est qu'un des éléments. C'est un problème beaucoup plus complexe.
Il y a plusieurs choses. Parce que, par exemple, pour le Bnei Aaron, on dit parce que Aaron est un Af Hashem. Et Moïse a prié pour Aaron, pour les fils d'Aaron, pour qu'ils ne meurent pas. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a deux qui s'étaient sur la notarie. D'accord ? Et on voit aussi, alors ils étaient aussi des signes. C'est comme, je ne sais pas, on a l'impression comme Dieu a attrapé un moment qui pouvait faire payer les fautes avant. C'est ça que je ne comprends pas.
Ta question est trop complexe. Tu as ajouté des indications qu'ils n'ont pas entendues. Il faudrait les expliquer. Tu as ajouté des paramètres dans ta question qu'on n'a pas étudié ce soir. Mais j'en profite pour élargir un peu la question sur ce que tu viens de dire à la fin. Que peut-être on pourrait comprendre que Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, ont été punis, pas seulement pour ce qu'ils ont fait à ce moment-là, mais aussi pour récapituler des fautes antérieures. Alors en tout cas, ça me donne l'occasion, je te remercie d'ailleurs, parce que j'allais oublier, de vous citer les deux autres explications des fautes de Nadab et Abihu. La première, vous l'avez dans le premier, vous allez prendre le texte étudié chez vous. Dans le premier texte ici. Laissez-moi parler. Et c'est que, à la révélation du Sinaï, Nadab et Abihu disaient, je vais un peu formuler ce que dit Midrash, en parlant de Moïse et Aaron, quand est-ce que ces vieux-là vont disparaître, qu'on les remplace ? Ça a l'air d'être brut comme ça. Mais je veux dire comment les rabbins expliquent ça. Bon. Au niveau psychologique, c'est très facile à comprendre. Hein. L'impatience de l'enthousiasme de l'adolescence, en crise d'adolescence, devant la génération pesante qui ne laisse pas le cocotier. Ils ont mangé ça de lui. Enfin, leur faute, c'était ils ont mangé notre coco et pas caché. Mais les rabbins expliquent comme ça, c'est que Moïse et Aaron ont représenté une manière douce de diriger le peuple. La Torah Rachamim. Alors que eux, c'est Milat Adin, et ils veulent remplacer la Anhaga par Milat Rachamim par la Anhaga de Milat Adin. Vous avez compris en hébreu ? Okay. Effectivement, c'est le propre des adolescents d'être le prince du Din. En français, c'est Sardine. Alors que c'est le propre des vieillards d'être Rachamim. Là, il faudrait citer un vers de Victor Hugo qui m'échappe. Ces jolis d'ambos endormis, qui se rappellent ? Hein ? Ah oui, alors, donc je vous répète, on en a dit déjà trois. La première, c'est le feu étranger, la deuxième, c'est le vin avant, la troisième, c'est le remplacement des générations, Ça, vous avez le texte ici, vous voulez vous le faire étudier, mais on n'a pas le temps. Prenez-le quand même. Et la quatrième, c'est que ils étaient célibataires, ils ne s'étaient pas mariés. Et il y avait une recherche d'une espèce de gloriole, l'engagement monacal de la sainteté. C'est au-dessus du prêtre d'être, de prendre femme. Alors qu'au contraire, la Torah impose que le prêtre soit marié. Parce que lorsqu'il est dans son service devant Dieu, on ne sait pas de quoi il parle. Ou de Dieu, ou de la femme qu'il n'a pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Pourquoi on ne laissait jamais un prêtre célibataire officier. C'est resté un peu dans le rite juif. Il y a certaines prières qu'on ne laisse dire qu'à des gens mariés. Et certaines même à Rosh Hashanah et Kippour, mariés et trois enfants au moins. Ça veut dire pour qu'on soit assuré que sa ferveur religieuse n'est pas d'une autre, flamme. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc. Et alors voilà donc les quatre. Mais pour retenir à ta question, c'est ce qui s'était passé au Sinaï. C'est-à-dire, et là, ça récapitule toute une histoire de l'humanité. La dernière phrase de la prophétie, c'est Ve'eshiv levavot albanim ve'levanim alavotam. Le conflit des générations qui a commencé au premier homme, entre lui et son père. Je parle du premier homme. Son créateur, la faute d'ingratitude qui a rompu la communication entre Dieu et l'homme, c'est le début de l'histoire de l'humanité, l'ingratitude, des générations entre elles. Et c'est pourquoi c'est la dernière prophétie, Eliyahu Hanavi viendra réconcilier les pères et les fils le moment venu. Donc. Bon, alors j'espère que vous avez ici un exemple en passant du sens, du lien entre ces deux types de textes. Le récit de la catastrophe qui a empêché que le huitième jour soit le huitième jour et la minutie dans les lois de la cacheroute. Le temps des engendrements continue. Alors attention à la fabrication des petits d'hommes. C'est pas n'importe comment qu'on fabrique le bel Adam. Ça dépend de ce que mangent les parents. Comment ça fonctionne, les modernes ne comprennent pas. On est obligé de faire un bilan. De 3000 ans d'histoire, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Vous savez comment fonctionne l'assimilation, comme on dit. Le Al-Shileshim va Ribeim. Au bout de 3-4 générations, c'est fini. Le dernier descendant de la 3e-4e génération, qui ne mange plus comme l'ancêtre, et il n'est plus dans la communauté. On se demande où il est. Il y a toujours un espoir. Il y a des retours. Insoupçonnable. Mais la règle est que 3-4 générations, mon rabbin m'a expliqué, le Rav Kook, que c'est le temps où on peut voir encore son grand-père, ou la rigueur de son grand-père, quand on peut se connaître. C'est ça le temps de l'assimilation. Et comme je disais, nous avons été témoins de retours inattendus. Le retour des juifs russes, après le rouleau compresseur de plus d'une génération de marxisme, et ils reviennent. Et en fin de compte, ils mangeront cachère. En tout cas, ils mangeront juif. Et ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Ils mangeront tout court, parce que la bague mangeait pas. Bien. Alors, je vous propose, ceux qui veulent de rester, on va faire arbitre. Et puis, ici. C'est là.
Et là, il y a. Derrière, il y a les 4 lettres de la Kabbalah, c'est la vie. Donc.
Et dans Vaïe, il y a les autres.
Et il y a la 21
et 26. Écoutez, je n'ai pas le temps de vous répondre, c'est l'heure passée, et on a demandé. Les Talmudistes peuvent faire.